en quête d'humanité, un documentaire de Martin Kenner.
C'était Sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture, une émission préparée par Irène Melianenko, Christine Gedge, Laure-Hélène Plancher, Andréa Insergex, Joseph Confavreux, Alexandre Hérault et Pierre Chevalier. Vous pouvez réécouter ces émissions en vous rendant sur le site franceculture.com. Lundi prochain, 16h, nous vous proposerons une nouvelle série intitulée Le Monde Moléculaire, avec un premier documentaire proposé par Inès Leroux et Guillaume Baldi, consacré aux antidépresseurs. Vous écoutez France Culture, il est 17h. Et dans quelques secondes, nous retrouvons Raphaël Antoven et ses invités pour les nouveaux chemins de la connaissance.
Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Hey, you know what? Suite et fin déjà d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance auront consacré à la mythologie grecque. Après Lucien Gerfagnon, revenu lundi dernier sur l'origine du mythe et les discours de l'aube, c'est Pierre Brunel, mardi, qui a évoqué pour vous les différentes versions du mythe de Sisyphe, de la légende antique jusqu'à l'éternel retour en passant par le guignon de Baudelaire ou le boléro de Ravel. Mercredi, Bernard Sergent a évoqué pour vous le mythe platonicien de l'Atlantide et hier jeudi, le philosophe et romancier Vincent Delcroix est venu vous parler d'Achille. Mais aujourd'hui, vendredi, c'est jour férié sur France Culture. Après avoir été l'invité de la matinale, puis de Tout arrive, l'émission d'Arnaud Laporte, Luc Ferry revient pour vous, chers auditeurs, parler dans les nouveaux chemins de la connaissance de son dernier ouvrage, paru aux éditions Plomb, La sagesse des mythes, Apprendre à vivre, tome 2, un livre dont, vous l'aurez compris, France Culture est partenaire. Bonjour Luc Ferry.
Bonjour Raphaël.
Bonjour, bienvenue de nouveau sur France Culture pour évoquer la question de la mythologie grecque à la faveur de ce livre, donc La sagesse des mythes, Apprendre à vivre, tome 2. Alors, on va parler de votre livre, on va essayer d'éviter les redites malgré tout, puisque vous étiez là ce matin et à midi, mais quand même, point de départ, partons de la méthode avant d'en venir au discours. D'où vient ce tutoiement, Luc Ferry? Pourquoi tutoyer ce lecteur? Qui est ce lecteur que vous tutoyez?
Le tutoiement vient à vrai dire de loin. D'abord parce que j'ai vraiment raconté ces mythes exactement comme dans le livre. Je les ai racontés à mes filles et comme évidemment j'ai l'habitude de les tutoyer, je trouve que quand on écrit et notamment quand on raconte, parce que c'est un livre où il y a beaucoup de récits et pas, il y a peu d'analyses et beaucoup de récits, on a besoin d'avoir un lecteur idéal et réel en tête, à savoir à qui on s'adresse. Et puis il y a une deuxième raison qui me tient toujours à cœur, et je crois d'ailleurs que je continuerai les autres livres sur le même mode, c'est que le tutoiement évite quasi automatiquement les allusions. Et il n'y a rien qui sépare davantage un écrivain de ses lecteurs, quand c'est pas des lecteurs érudits en particulier, que les allusions. Par exemple, quand je parle de théogonie ou de cosmogonie, quand je parle à ma fille qui a 7 ans, je suis obligé d'expliquer que théogonie, ça veut dire naissance des dieux, ou cosmogonie, ça veut dire naissance du monde, du cosmos. Et c'est des choses évidemment que je penserais même pas expliquer.
Le tutoiement serait comme un garde-fou en somme, qui empêcherait de s'éloigner de son lecteur. Oui. Ou de s'enfermer dans un discours.
Et j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de pensée compliquée en soi. Je crois que tout le monde peut comprendre toutes les pensées, y compris les plus profondes. En revanche, ce qui écarte de la culture ceux qui n'ont pas l'habitude d'y séjourner, c'est les allusions. Il suffit que vous ayez 2, 3, 4 allusions dans une page qu'un lecteur ne comprend pas. Il se dit, ça c'est pas pour moi. Voilà, s'il voit mythographe, cosmogonie, théogonie, il va se dire, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Et ce serait vraiment dommage parce que c'est justement pour lui. Voilà, et donc je pense que le tutoiement m'oblige. Et j'avais commencé quand Dominique de Villepin m'avait demandé de raconter l'histoire quand on était en vacances ensemble, quand on était tous les deux ministres, l'histoire de la philosophie. J'avais en face de moi des gens très différents, puisqu'il y avait le ministre des Affaires étrangères, puis ma fille qui avait 12 ans à côté. Et quand je disais Friedrich Nietzsche, par exemple, eh bien je voyais que ma fille ne savait absolument pas ce que c'était, si c'était un animal, une île, une ville ou un écrivain, et j'étais obligé de dire le grand philosophe Nietzsche, le grand philosophe de la deuxième moitié du 19e siècle, etc. Évidemment, chose que je ne ferais pas si je m'étais adressé simplement à Dominique de Villepin, en l'occurrence.
Effectivement. Néanmoins, restons encore sur le tutoiement. Ça va avec une tradition philosophique, hein, une tradition de l'enseignement de la philosophie. C'est-à-dire aussi l'idée que l'exercice de la philosophie ne se passe pas, enfin que la philosophie donne envie d'enseigner comme l'amour peut donner envie de chanter. que la philosophie ne se passe pas de l'exercice de sa transmission. En l'occurrence, le destinataire ressemble à un enfant. Vous le dites vous-même, hein. Vous pensez à vos filles. Le destinataire ressemble à un enfant. Est-ce que l'ancien ministre que vous êtes considère que on pourrait enseigner la philosophie dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, par exemple?
On peut le faire, bien sûr, mais tout dépend de la façon dont on le fait. La grande difficulté, c'est pas simplement, un truisme, c'est que quand on prend une décision en tant que ministre, on est obligé de prendre une décision pour 50 000 écoles élémentaires d'un coup. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc, la question comment c'est enseigné devient crucial, parce que je suis sûr que si c'est vous qui enseignez à votre petit garçon, moi je pense que quand je le fais à mes filles et que je leur raconte en effet des pensées philosophiques, ça passe très bien. Mais il y a un grand risque que ça puisse être n'importe quoi d'autre, et donc quand on prend une décision générale, c'est ça qui fait toujours un peu hésiter. Et donc je me dis qu'après tout, ce qui serait bien, c'est qu'on enseigne la philosophie peut-être à partir de la classe de seconde. Mais chez les tout petits, j'aurais peur que, ça tourne parfois au bourrage de crâne ou à quelque chose de dogmatique, parce qu'ils sont si petits à l'école primaire qu'ils peuvent pas se défendre face à un professeur de philo brillant qui leur mettrait des idées pas forcément justes dans la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que des idées justes? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut, quand on parle de philosophie, que celui qui est en face puisse, si je puis dire, se défendre, c'est-à-dire avoir un minimum d'esprit critique. Et donc, moi, je serais assez partisan de l'enseignement à partir de la classe de seconde. Cela dit, c'est vrai, vous le disiez, il y a un précédent, il y a une tradition du tutoiement, et évidemment, le premier manuel d'histoire, enfin, dans l'histoire de la philosophie, c'est le manuel d'Épictète. C'est le manuel, c'est ce qu'on doit avoir la main, qu'on doit avoir, Épictète le compare à
un
poignard, donc on doit toujours l'avoir sous la main comme un poignard, comme on a son poignard sous la main, et donc, dans ce manuel Épictète, qui est le premier manuel, eh bien, il tutoie son lecteur, qui est pas forcément d'ailleurs un disciple enfantin, ça peut être un adulte.
Alors on va rester un instant sur Épictète, puisque vous en parlez. Épictète est un stoïcien, rappelons-le pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas tout à fait en tête l'histoire des idées. Épictète est un stoïcien, et de ce point de vue, il appartient à une tradition de pensée dont la particularité est que ses plus éminents représentants sont d'un côté un esclave, comme Épictète, de l'autre un empereur, comme Marc Aurèle. De sorte que le stoïcisme est une discipline, ou une façon de penser, ou d'appliquer la pensée à l'existence, voire de les confondre, qui envisage la liberté ou la conquête de la liberté, qu'on soit dans la situation de l'esclave ou qu'on soit dans la situation de l'empereur. C'est étonnant quand même.
C'est-à-dire que ces sagesses du monde que vont mettre en place les stoïciens, qu'est-ce que c'est que les sagesses du monde? C'est l'idée d'une sagesse qui repose sur le principe de la mise en harmonie de soi-même avec l'harmonie du monde, avec l'harmonie du cosmos. L'idée que chacun a son lieu naturel, pour parler comme Aristote, dans ce monde que les Grecs appellent le cosmos, cet ordre du monde. Et donc, que l'on soit esclave ou que l'on soit consul ou que l'on soit ministre comme Sénèque, puisqu'après tout, il y a aussi Sénèque dans cette tradition stoïcienne et qui était ministre, en tout cas ce qu'on appellerait ministre aujourd'hui, eh bien, nous avons chacun un lieu naturel dans cet ordre cosmique, et la sagesse, c'est de trouver ce lieu naturel, ce qui suppose la théorie.
De se connaître soi-même, en
vérité. Se connaître soi-même, de savoir... Se connaître soi-même
savoir
au sens
quelle
grec.
Est sa place. Oui.
C'est-à-dire, se connaître soi-même, c'est savoir rester à sa place. Savoir quelle est sa place, c'est savoir rester à sa place, comme on dit de quelqu'un, quand on lui donne une leçon, qu'on le remet à sa place. C'est cette idée-là qui va, justement... dominer l'univers de la mythologie et l'univers stoïcien. Il n'y aura pas que ça d'ailleurs dans la mythologie, puisqu'on va trouver dès la mythologie deux traditions, si on peut dire. Une tradition qui est intéressée, des mythes qui sont intéressés à défendre l'ordre, le cosmos, et des mythes qui sont intéressés au contraire à défendre ce qu'on pourrait appeler déjà la contre-culture ou la critique de l'ordre cosmique. Et on trouvera évidemment dans toute l'histoire de la philosophie ces deux traditions.
Quel genre de mythe altermondialiste?
On a des mythes de l'hubris, c'est-à-dire des mythes du désordre, si je puis dire, des mythes de la différence, de la philosophie.
L'homme de la démesure n'est-il pas puni? Ils sont toujours punis.
Ah, ils sont toujours punis. Ça se termine toujours mal pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont toujours, justement, remis à leur place, soit par Zeus directement, la plupart du temps par Zeus qui les foudroie, soit par un lieu tenants de Zeus, comme Héraclès par exemple, qui passe son temps à foudroyer lui aussi, ou en tout cas à anéantir ceux qui sortent de leur place, ceux qui ne sont pas à leur place dans le monde.
Alors il y a une chose, on pourrait considérer que la démesure, d'ailleurs la critique de la démesure chez les Grecs prend souvent la forme d'une critique de la démocratie, comme c'est le cas par exemple chez Platon. On va reparler de Platon avec vous, Luc Ferry, comme c'est le cas chez Platon, donc où il fait un portrait calamiteux de l'homme démocratique dans le livre 8 de la République, celui qui s'enivre un jour, qui est sobre le lendemain, qui ne sait pas qui il est en somme, ni quelle est sa place, et qui est un portrait dont on retrouve tous les termes d'ailleurs dans le Figaro de Beaumarchais. Mais cette figure de l'hubris comme équivalent finalement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la liberté, une sorte de liberté prométhéenne, celui qui dit je fais ce que je veux. Cette figure de l'hubris est-elle utilisée par les Grecs, a-t-elle une fonction politique chez les Grecs?
Plus que politique, même je dirais ontologique, métaphysique, c'est-à-dire que l'hubris, pourquoi ces mythes de l'hubris sont passionnants, c'est parce que c'est une tentation qui est proprement humaine. Au fond, ni le lapin ni l'huître ne pêchent par hubris. Les lapins et les huîtres, ça reste à sa place. En termes d'écologie contemporaine, on dirait que seul l'homme est capable d'une vraie démesure, c'est-à-dire d'entraîner, de mettre le chaos au sein de l'écosphère ou de la biosphère. Si on voulait parler ce langage contemporain, il serait pas éloigné de la pensée des Grecs et Comptes. Seul l'homme peut pêcher par hubris. Pourquoi? Ça c'est une question passionnante. Revenons à Platon dans le mythe platonicien de la création des animaux et des hommes. Quand Zeus confie à Épiméthée et à son frère Prométhée le soin de fabriquer des animaux et des hommes, des êtres vivants, parce que les dieux s'ennuient. Les dieux s'embêtent sur le toit de l'Olympe, ils n'ont rien à faire. Zeus a réussi à mettre un ordre équilibré, un univers en place, un cosmos en place, et ils s'embêtent à mourir, donc ils vont décider de créer des petits êtres vivant pour se distraire. Et donc dans le mythe d'Épiméthée, Épiméthée crée d'abord les animaux, il donne à chacun des qualités, aux uns la rapidité, aux autres des carapaces, un troisième des griffes, etc. Chaque être humain est bien équipé pour survivre, et puis il a oublié de garder des qualités pour l'être humain qui va être tout nu et sans aucune protection. Il a pas de fourrure, il en plus il reste comme un bébé pendant des années chez ses parents sans pouvoir survivre lui-même, sans pouvoir se débrouiller lui-même. Et cet être humain nu, fragile, c'est justement celui qui va devoir inventer sa vie, qui est donc un être de liberté et qui par conséquent est le seul être vivant qui va pouvoir pêcher par démesure, par hubris.
Parabole, aucun animal. Parabole qui traverse l'histoire des idées, on la retrouve chez Puig de la Mirandole, dans la dignité chez Rousseau, de l'homme, chez Rousseau, bien sûr.
Jusque chez Heidegger et Sartre.
Alors, revenons sur la façon dont vous racontez les histoires, parce que on a discuté au début de cette émission de la question de la transmission de la philosophie. Peut-être la meilleure façon de transmettre la philosophie est-elle le récit. De ce point de vue, effectivement, le livre fourmille de récits. On sent d'ailleurs chez vous dans ce récit l'influence de Jean-Pierre Vernant,
oui, maître que j'aimais beaucoup,
génie évidemment de la
le grand
de la
Vernant,
narration,
oui.
le grand Vernant auquel vous rendez hommage. Alors on va écouter précisément. D'ailleurs, tiens, la voix de Jean-Pierre Vernant, en hommage à lui, et puis pour vous faire plaisir, Luc Ferry. Ici, Vernant revient sur le mythe que vous racontez vous-même de la castration d'Ouranos, évidemment.
Ouranos repose étendu sur Gaïa, et l'horizon d'Ouranos est borné. Il ne pense qu'à une chose, c'est faire l'amour avec Gaïa. Il est toujours en train de copuler avec elle, de sorte que cette pauvre Gaïa n'a plus de quoi respirer. Il lui colle à la peau, il est au-dessus d'elle. Il engendre des enfants dans le ventre de Gaïa, mais ces enfants ne peuvent pas sortir. D'abord parce qu'il n'y a pas de place entre les deux, et ensuite parce que, en un certain sens, il n'y a pas non plus de temps. Tout est figé dans le ventre de Gaïa. Alors, Gaïa trouve que c'est assez duré, et elle demande à l'intérieur d'elle-même, elle est ventriloque d'une certaine façon aux enfants qui sont dans sa bidasse. Elle leur dit, ça peut pas durer comme ça, il faut châtier votre père Ouranos, et il y en a un, Cronos, le plus jeune, le plus intelligent, qui dit d'accord. Alors elle lui donne une serpe en acier, et elle dit, quand Ouranos va venir s'épancher à l'intérieur de moi, dans mon vagin, eh bien, tu lui régleras son affaire. Alors, Cronos lui attrape les parties sexuelles, un bon coup de serpe, il les tranche, il jette par derrière les bourses et le sexe, les gouttes du sang tombent sur Gaïa, le sexe lui tombe sur Pontos, sur le flot marin, et il navigue, il ne coule pas, ce sexe d'Uranos, et de l'écume, du sperme et de la mer, naît une divinité que nous connaissons toutes et qui s'appelle Aphrodite. Uranos, ainsi émasculé, pousse un hurlement de rage, mais s'éloigne de Gaïa, il monte vers le haut, il se fixe dans le ciel, et par conséquent, entre la Terre-Mère et Uranos-Père, il y a maintenant un espace où vont pouvoir apparaître, visibles, distinctes, et en même temps se développer, d'abord des enfants, ensuite des adultes, et ensuite des vieillards, l'espace est débloqué, et le temps aussi. Donc le monde s'est ouvert spatialement et temporellement.
Avec nous pour terminer cette semaine sur la mythologie grecque. Luc Ferry qui est l'auteur donc de La Sagesse des Mythes, Apprendre à vivre, le tome 2, c'est le deuxième volume de 5 ouvrages, n'est-ce pas, qui sont prévus,
oui,
Luc Ferry.
Oui, oui, ce sera une série de 5. Je voudrais raconter toute l'histoire de la philosophie, en tout cas ces très grands moments, et la raconter un peu plus en détail que dans le premier tome, même beaucoup plus en détail, en suivant ce fil conducteur qui est l'idée que les grandes philosophies sont des réponses à la question de la vie bonne, mais des réponses qui ne sont pas des réponses religieuses. C'est-à-dire que ce sont des doctrines du salut sans Dieu. Voilà l'idée qui anime ce livre et ceux qui suivront.
Ce que la mythologie va léguer de plus profond à la philosophie antique, qui est directement son héritière sur ce point, c'est que la question essentielle est bel et bien celle de savoir comment parvenir à une vie bonne au sein de ce cosmos, même une fois sécularisé et dédivinisé à la façon platonicienne et stoïcienne. Si la philosophie naît en Grèce, c'est que le mythe y a préparé le terrain en réfléchissant déjà de façon extraordinairement profonde à la condition des mortels au sein de l'univers. De sorte que l'interrogation fondamentale des philosophes est déjà préformée de part en part lorsqu'elle émerge, il s'agit de savoir comment vaincre les peurs liées à la finitude pour parvenir à la sagesse, c'est-à-dire à la sérénité qui seule est condition du salut au sens étymologique du terme, ce qui nous sauve de l'angoisse de la mort que notre condition humaine implique. Alors là, on a le projet, hein, on est à la fin de ce livre, un chapitre intitulé Mythologie et philosophie, où vous livrez le fin mot et finalement le discours. On a évoqué la méthode, on va parler du discours. Comment vaincre les peurs liées à la finitude, Luc Ferry? Est-ce que c'est en surmontant la finitude ou est-ce que c'est en l'épousant?
Non, c'est évidemment à l'épousant. C'est ça le message philosophique le plus fondamental, sinon on serait dans les religions qui nous promettent l'immortalité. Et ce qui est génial dans l'histoire matricielle de la mythologie, l'histoire d'Ulysse, c'est que justement, Ulysse qui veut à tout prix rejoindre son lieu naturel dans l'ordre cosmique qui est à Ithaque, avec sa femme Pénélope, avec son fils Télémaque, son père Laërte, quand il s'ajuste à cet ordre cosmique, Il obtient deux choses par cet ajustement. À la fois, il obtient enfin la chance inouïe de vivre au présent. Dans son voyage, il est toujours soit dans le passé, c'est-à-dire la guerre qui a commandé tout le voyage, la guerre de Troie, soit dans le futur parce qu'il aspire à rentrer chez lui. Une fois qu'il est chez lui, il est dans le présent. Donc il va pouvoir vivre le carpe diem d'Horace, la réconciliation avec le monde. Il va enfin pouvoir vivre ce que Nietzsche appellera très joliment l'amor fati, c'est-à-dire la réconciliation avec le monde tel qu'il est, avec le monde tel qu'il va. Mais cette idée-là, pourquoi c'est important et pour quel rapport avec la question, au fond, de la sagesse laïque, c'est la sagesse qui accepte la mortalité, c'est que pour parvenir à cet endroit, pour parvenir à se réconcilier avec le monde, eh bien, il a fallu que Ulysse accepte de mourir. Il a fallu qu'il refuse l'offre d'immortalité que lui fait Calypso. Et au fond, ce moment où il refuse l'offre d'immortalité que lui fait la jolie déesse Calypso, qui lui propose pour le garder l'immortalité, c'est le moment où Ulysse entre, je dirais, dans la philosophie et quitte la religion. Voilà, c'est ça exactement, je pense, le message.
Donc le départ de l'île de Calypso signifie pour vous l'entrée dans la philosophie,
exactement.
C'est-à-dire l'apprentissage de la mortalité,
l'acceptation
de la mortalité.
Mais néanmoins, le souci de chercher une vie bonne et un sens à la vie, c'est puisque le sens là, il est bien attesté. C'est à la fois la direction et la signification. C'est vraiment tout le voyage d'Ulysse a un sens. D'ailleurs, juste un petit détail, quand on voit les obstacles mis à son voyage, c'est toujours l'oubli qui est la menace suprême. D'ailleurs, ce que Vernant, qu'on entendait tout à l'heure, a très joliment montré dans toutes ses analyses d'Ulysse, c'est que constamment,
les
sirènes, Calypso elle-même lui dit, dans Homère, elle voulait lui faire oublier Ithaque. Et c'est ce que Vernant a très joli. C'était beau de l'entendre tout à l'heure, parce qu'en plus, Vernant racontait ses mythes à ses petits-enfants, à son petit garçon, je crois, à son petit-fils. Et là, on voit bien comment ces mythes méritaient d'être racontés, hein, pas simplement commentés.
On va l'entendre de nouveau, hein, oui. Vernant, un peu plus tard avec vous, Luc Ferry. Néanmoins, sur cette question de la mort fatie, vous dites que c'est une fois qu'il est rentré chez lui qu'il peut vivre la mort fatie. Mais ce qu'on appelle la mort fatie, hein, c'est l'amour du destin, c'est ce que Nietzsche formule.
Oui, l'amour du monde tel qu'il est, l'amour du présent, quoi, voilà.
Ben, c'est pas seulement
l'amour du présent. L'amour de son sort, l'amour du fatum, quoi, on peut pas traduire mieux.
Voilà. c'est le début du gai savoir de Nietzsche. C'est le moment où Nietzsche se propose, à l'époque des bonnes résolutions, de n'être plus qu'éternelle approbation, qu'éternelle dire oui, éternel amen. Mais la mort fatie, dont il dit je n'accuserai point, je n'accuserai même pas les accusateurs, je veux à partir d'un moment quelconque n'être plus autre chose que pure adhésion. La mort fatie, il est inconditionnel chez Nietzsche. Ce que je veux dire, c'est que Ulysse doit vivre la mort fatie avant de rentrer chez lui. Il ne faut pas attendre le bonheur pour vivre la mort fatie. La mort fatie s'éprouve justement presque davantage chez Nietzsche dans la douleur que dans le bonheur. De sorte que, pourquoi Ulysse devrait-il attendre de rentrer chez lui pour vivre la mort fatie? Ça, c'est la première question.
Oui.
Et la deuxième, c'est Ulysse, une fois arrivé chez lui, une fois qu'il a tué les prétendants, une fois qu'il a retrouvé sa femme, une fois qu'il a conjuré tous les malheurs, tous les pièges, toutes les choses trappes de Poséidon, il s'ennuie. Que se passe-t-il le lendemain? La page d'après la fin de l'Odyssée, Ulysse s'ennuie, le temps s'est arrêté. Luc Ferry.
L'Odyssée s'arrête là, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir ce qui se passe après. Il y a d'ailleurs plusieurs hypothèses sur la suite de l'Odyssée. Mais je crois que si on revient aux deux premières questions que vous posiez très très justement, après tout, pourquoi ne pas vivre la mort fatie ici et maintenant et tout de suite et pendant le trajet et pourquoi attendre la fin de l'histoire pour dire voilà, je suis réconcilié enfin avec le monde, mais qu'est-ce que je me suis ennuyé avant et comme c'était dur. Eh bien, je pense que le sens de cette trajectoire d'Ulysse, qui est une trajectoire bourrée d'embûches, qui est extrêmement douloureuse, il perd tous ses compagnons, tous les gens qu'il aime. Le sens de cette trajectoire, c'est le sens de l'expérience humaine comme telle, c'est à l'idée que on n'est pas sage d'entrée de jeu, on le devient. Autrement dit, un petit enfant n'est pas un sage grec. L'image du vieux sage, elle signifie quelque chose, c'est que il y a une trajectoire qui est celle de l'expérience, c'est-à-dire de l'élargissement de l'horizon.
Oui, mais vous faites
et cette trajectoire-là. On peut la vivre comme quelque chose de déjà formidable, comme on peut y prendre un plaisir immense. D'ailleurs, je pense que Ulysse y prend aussi un plaisir immense à ce voyage. Mais c'est quand même une trajectoire, c'est pas quelque chose qui est donné d'entrée de jeu. On ne naît pas sage, on le devient. Et c'est ça, évidemment, cet élargissement de l'horizon. Regardez, par exemple, Ulysse veut toujours comprendre ce qui se passe, il veut toujours connaître les cultures étrangères, les êtres nouveaux, les lestrigons, les cyclopes, à chaque fois il va explorer le chant de Circé, à chaque fois il veut aussi, souvenez-vous, entendre le chant des sirènes, et à chaque fois il veut pas passer à côté d'une expérience qui lui permet d'élargir l'horizon, et je pense que cet élargissement de l'horizon fait partie de la définition de la sagesse, c'est quelque chose qui est pas donné d'entrée de jeu.
Donc Ulysse figure de la pensée élargie, mais le temps dans l'Odyssée n'est pas linéaire, il ne va pas de l'enfance à l'expérience. C'est un temps qui fait retour sur lui-même. D'ailleurs, quand Ulysse revient dans la maison de Pénélope, il revient en jeune homme par la grâce d'Athéna, d'ailleurs, qui lui rend l'allure qu'il avait quasiment en partant, l'allure de guerrier magnifique. D'ailleurs, il bande l'arc qu'il est seul à pouvoir bander sans difficulté 20 ans plus tard. Ce que je veux dire, c'est que le temps est cyclique.
Pas tout à fait, parce que, non, en fait, là, je crois que c'est un point très important pour comprendre la structure de l'Odyssée. L'Odyssée a la même structure que la Théogonie d'Hésiode, c'est-à-dire que ça commence par le chaos, ça commence par Eris, par la guerre, par la discorde, et ça se termine par l'harmonie cosmique. Donc en vérité, on a une trajectoire qui est pas du tout une histoire amoureuse, mais qui est une histoire ontologique ou cosmique, qui commence avec le chaos, comme la naissance du monde, et qui se termine avec l'harmonie cosmique, comme la victoire de Zeus sur les typhons, sur les titans et sur Typhon. Et donc on a là aussi à nouveau une trajectoire qui est pas cyclique, qui est bien une trajectoire qui va du chaos au cosmos, qui va du désordre absolu et de la guerre, de la discorde, vers l'harmonie retrouvée à Ithaque.
Maintenant nous allons vivre, chante Ulysse, quand il retrouve enfin sa Pénélope. Hélas, ils vont vivre et le rideau tombe, car l'opéra de Forêt s'en tient là. Hélas ou heureusement, nous ne saurons jamais ce que fut cette vita nova que les amants allaient vivre. Mais personne ne nous empêche d'imaginer le lendemain et le surlendemain de cette grande fête. Une fois réinstallé dans son palais d'Ithaque, voilà qu'Ulysse cesse de compter ses aventures. Il est distrait, taciturne, il ne mange plus la soupe de l'épouse. La ride de la conscience soucieuse jette une ombre sur son front, éternit l'innocence de son bonheur. Ce qui lui manque, c'est quelque chose d'autre, que le retour à la fois consacre et abolit. C'est le malheur du bonheur suprême, qui est un malheur métaphysique, et c'est la tristesse de la joie, qui est tristesse immotivée. Ulysse regrette l'instant où il a confusément entrevu Ithaque, l'instant où l'île de son espoir hésitait encore entre l'inexistence et l'existence. Luc Ferry est avec nous pour parler de mythologie grecque et clore cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la mythologie grecque, à l'occasion du livre de Luc Ferry, La sagesse des mythes, Apprendre à vivre, le tome 2 d'une série de 5 ouvrages à venir, le tome 2 donc intitulé Apprendre à vivre. Luc Ferry, est-ce que le texte de Vladimir Jankélévitch que je viens de lire là, qui décrit finalement le retour d'Ulysse et la possibilité de l'ennui, ne décrit pas également la condition de l'homme partagée entre la douleur de l'attente, la douleur du moment du retour tant espéré, et puis l'obtention de ce retour, ce sens qu'on aurait retrouvé, et qui, du coup, n'ayant que lui-même à offrir, eh bien, s'estompe à l'instant où on le saisit.
Mais c'est une interprétation moderne qui est évidemment intéressante, mais qui est totalement, à mon avis, étrangère à la pensée grecque, en tout cas à celle d'Homère. C'est une interprétation qui consiste en fond à dire, si je la banalise un peu, que la réalisation du rêve ou la réalisation du fantasme, c'est toujours une catastrophe. C'est pas ça qui se passe dans l'histoire d'Ulysse. Il se passe quelque chose que Pierre Hadot, à mon avis, a très bien compris et qui est tout à fait différent de ce que décrit Jankélévitch. C'est le moment de réconciliation avec le monde, ce moment d'amour fati, ou pour parler encore comme Nietzsche, d'innocence de devenir, c'est le moment où le sage, et Ulysse est vraiment cette première figure du sage, prend plaisir à la simple existence indépendamment de tout projet. Au fond, le fait de se réjouir de l'existence elle-même, c'est ça qui est en jeu dans ce message de sagesse, avec cette définition du sage qui est celui qui regrette un peu moins, qui espère un peu moins et qui aime un peu plus.
C'est Comte Sponville qui le dit.
Oui, c'est tout aussi bien Sénèque. Comte Sponville ne dit pas exactement ça, il dit que c'est celui qui espère un peu moins et qui aime un peu plus, mais il dirait volontiers qui regrette un peu moins, qui espère un peu moins, qui aime un peu plus, qui vit moins dans le passé, moins dans le futur, et plus dans le présent, dans la réconciliation avec le monde. Et la joie de cette réconciliation avec le monde, c'est la sérénité, c'est l'innocence du devenir chez Nietzsche, c'est Gelassenheit chez Heidegger, on retrouvera donc dans toute l'histoire de la philosophie ce thème extrêmement profond, et c'est le moment où on s'aperçoit que l'existence est une joie en elle-même, indépendamment du projet, et donc que la réalisation du rêve n'est pas trahie par cette présence au monde et par cette joie prise à la simple existence. Dans le livre d'Ado, qui est consacré, il y a plusieurs livres qu'il a consacrés à ce thème-là, il cite des textes de Goethe et des textes de Rousseau, qui sont très jolis, où notamment Rousseau dit qu'il a mis très longtemps à comprendre qu'il y avait un plaisir indépendamment, encore une fois, de toute construction, de tout projet, de toute intention, pris au simple fait d'exister.
Mais oui, mais ça, c'est la fameuse cinquième rêverie de Rousseau sur le lac Saint-Pierre quand il se laisse aller au pur plaisir d'exister.
Exactement.
C'est le personnage de Rousseau. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans La Recherche du Temps Perdu,
et Ulysse Proust, doit être là plutôt que dans la tristesse d'avoir en disant oh, mais mon Dieu, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais repartir pour de nouvelles aventures? Ça, c'est une interprétation moderne et romantique d'Ulysse, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas la bonne, quoi.
Mais la question est de savoir. Non, mais la question est de savoir si le plaisir d'exister dépend ou non des causes extérieures. Voilà, c'est ça l'enjeu, puisque finalement l'enjeu ici, c'est de savoir, faut-il suspendre le plaisir d'exister à un bien-être extérieur, au fait de retrouver sa femme, ou etc. Est-ce que le plaisir de l'existence doit-il se déployer de façon presque paradoxale, puisque le monde n'a rien de réjouissant la plupart du temps, doit-il se déployer indépendamment des conditions de l'existence?
Alors là, quand on s'imagine aussi que l'histoire d'Ulysse est une histoire d'amour, c'est une grande erreur. C'est encore une des grandes erreurs modernes. C'est évidemment une histoire cosmologique. Encore une fois, elle va du chaos, c'est-à-dire de la guerre, jusqu'à Cosmos. Comment dire, rien ne laisse penser qu'Ulysse est amoureux de Pénélope, quant à son fils Télémaque, il ne l'a jamais vu. Donc, ou il l'a vu 3 secondes quand il avait une semaine. Donc, c'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire cosmique. Et la capacité de prendre plaisir à l'existence elle-même, et donc cette réconciliation avec le présent, elle dépend de quelque chose qui est fondamental dans ce message de sagesse qui est celui des mythes grecs, c'est la capacité à vaincre les peurs. Quand nous avons peur, nous sommes coincés, c'est-à-dire que nous perdons à la fois toute liberté de penser et toute capacité d'aimer. Ulysse, c'est celui qui va justement réussir à vaincre ses peurs, c'est ça aussi l'une des significations de son voyage, et c'est pourquoi c'est un voyage plein d'embûches, plein d'épreuves, plein de difficultés.
Est-ce qu'il vainc ses peurs?
La victoire sur les peurs, elle tient au fait que, juste un petit point, quand on a réussi à s'ajointer, ça s'appelle fugue en allemand, à s'ajointer, à s'ajuster au monde, c'est un grand thème, un thème très important chez Heidegger. Quand on a réussi à s'ajointer, à s'ajuster à cet ordre cosmique, alors on s'aperçoit qu'on est soi-même un fragment d'éternité. Et ces atomes d'éternité, Nietzsche en reparlera aussi dans tout à fait dans le même sens, ces atomes d'éternité que nous sommes, quand nous sommes en harmonie avec le monde, lorsque nous ne sommes plus dans les passions tristes, dans les regrets, les remords, les culpabilités, les nostalgies ou dans les espérances, eh bien, ces atomes d'éternité que nous devenons, c'est ça la figure du danseur, c'est la légèreté, c'est ça qu'atteint Ulysse, et donc c'est sans aucune tristesse et dans la joie, dans cette joie-là, cette joie prise à la simple existence qu'il doit passer la fin de sa vie. D'ailleurs, sinon pourquoi aurait-il renoncé à l'immortalité, à la jeunesse éternelle que lui proposait Calypso sur une île divine? Resté avec elle, comme vous et moi.
Vraisemblablement. Parler pour vous, mais le fait qu'il renonce. Le fait qu'il renonce au privilège de la vie immortelle ne l'empêche pas d'en éprouver le regret ensuite. C'est ça que je veux dire.
Il n'y a pas de trace de ça. J'ai pas vu dans l'Odyssée de trace de ça nulle part. Au contraire, il y a vraiment cette sagesse grecque qui est une sagesse de la légèreté, une sagesse de l'innocence d'une certaine manière. Il redevient enfant, pour parler comme Nietzsche. Je crois que c'est ça le sens de ce message. Et je pense que là encore, c'est d'ailleurs comme chez Nietzsche, un lien à l'éternité, parce que l'ajustement à l'ordre cosmique nous permet de comprendre que nous sommes des fragments d'éternité et que par conséquent, la mort n'est rien pour nous, la mort n'est qu'un passage.
Et ce, quel que soit l'ordre cosmique en question. C'est-à-dire, il s'agit de s'ajuster à l'ordre cosmique, quel que soit l'ordre cosmique, qu'il nous soit favorable ou qu'il nous soit défavorable.
Oui, alors ça c'est plus compliqué parce que ça j'y ai jamais trop cru. Je sais bien que c'est la thèse en effet de Nietzsche, c'est-à-dire qu'on dit oui à tout, hein, donc il s'agit pas de dire oui quand c'est aimable, mais il s'agit de dire oui aussi quand c'est pas aimable. Je n'y crois guère, et c'est un des grands problèmes d'ailleurs des mythes grecs qu'on va retrouver dans le mythe d'Antigone, c'est que Antigone, quand elle s'aperçoit, donc la fille d'Œdipe, qu'elle s'aperçoit qu'une malédiction pèse sur sa famille depuis toujours.
Elle est la fille de son frère et de sa grand-mère, hein, il faut le dire.
Oui, ce qui n'arrange pas les choses, faut être honnête. Et donc, quand elle s'aperçoit que, et son père, le pauvre Œdipe, a déjà payé quelque chose qui s'était passé dans les générations antérieures, et que elle-même, elle va mourir pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, qu'elle est victime d'un destin, elle est quand même dans la révolte, malgré tout. Et donc, on va trouver là quelque chose qui est assez intéressant dans la mythologie grecque, c'est que, non, il n'y a pas de possibilité d'adhérer totalement à cet amour du monde, à se réconcilier totalement avec lui. Quand le monde a vraiment une sale tête, quand il est vraiment insupportable, quand il est vraiment injuste, eh bien on voit aussi, même chez les Grecs, les prémices de la révolte apparaître. Et Antigone incarne évidemment ça. Elle incarne malgré tout, bon, elle va accepter la mort, elle va accepter son sort, mais elle l'accepte quand même dans l'indignation et la révolte. Et on voit que chez les Grecs, que ce thème n'est pas non plus absent.
Alors effectivement, la question de l'indignation et de la révolte, Antigone l'incarne. Antigone est une figure de la révolte traditionnelle. Pour mémoire, elle a été murée vivante. Oui. Donc elle est morte vivante. Elle s'est vue mourir d'une certaine
façon.
Oui,
et quand Créon envoie ses soldats pour la libérer, Créon
c'est
trop
tard.
Son
oncle, voilà, c'est ça. Créon c'est son oncle qui prend la décision.
Il l'a condamné à mort, voilà. Et après, comme il est embêté, il s'aperçoit que c'est pas très bien de faire ça et qu'en fait Antigone défendait des choses qui n'étaient pas absurdes. Il envoie ses soldats pour la libérer, mais elle est morte. Donc elle paye le prix de ce destin qui pèse sur sa famille depuis toujours et dont elle est totalement non responsable ni coupable d'ailleurs, et elle est en effet révoltée. D'ailleurs, je pense que imaginez ça, quand les Grecs voyaient ces pièces de théâtre qui étaient vraiment jouées, ils devaient certainement éprouver un sentiment de révolte. J'imagine que ça devait faire partie du message de Sophocle ou d'Eschyle dans ces pièces consacrées à Antigone.
Au-delà de la révolte, il y a l'amour, hein. C'était le grand projet d'écriture de Camus, interrompu par une mort absurde le 3 janvier.
Et là, c'est plutôt
sur la route de Villeblevin.
Au-delà de l'amour, il y a la révolte. Là, c'est plutôt dans l'autre sens. Au-delà de l'amour du monde, il y a quelque chose dans le monde, même dans ce bel ordre cosmique des Grecs, qui ne colle pas et qui est symbolisé. C'est ce que disait Vernon tout à l'heure. Enfin, il n'avait pas tout à fait fini son propos, mais c'est ce qui était dedans. In nucleo, c'est les enfants qui vont incarner ça. Les enfants vont incarner justement c'est ce caillou dans la chaussure, ce gravier qui fait que le cosmos ne tourne pas rond, parce qu'ils vont incarner à la fois la vie, puisque sans les générations d'humains qui se reproduisent, qui se renouvellent, il n'y aurait ni vie ni histoire, mais en même temps ils vont incarner la mort, puisque les générations se succèdent par le biais par cette rupture qu'est la mort, évidemment. Et donc ça, c'est quelque chose qui est dans ce bel ordre cosmique magnifique que Zeus a réussi à construire, c'est quelque chose qui ne colle pas, c'est quelque chose qui fait dérailler le système de l'équilibre parfait.
Alors revenons un instant sur ce que vous disiez de l'approbation de la mort fatie chez Nietzsche, avec vous Luc Ferry. Si vous dites qu'en gros, quand le monde a vraiment une sale tête, on ne peut pas être dans l'approbation, et qu'en somme on ne peut pas dire oui face à des camps de concentration, face à des viols d'enfants.
Oui, c'est l'argument du bourreau.
Bon, c'est le syllogisme du bourreau. Oui. Hein, si vous approuvez l'existence, vous approuvez aussi ces infamies.
Tout ce qu'il y a dedans.
À quoi on pourrait rétorquer que celui qui se plaint du monde comme il est, le fait à bon droit, le fait à juste titre, mais prolonge la douleur que lui donne le monde par la plainte même qui s'élève contre elle. Celui qui, face à ce monde, décide de ne pas doubler sa douleur du regret qui devrait l'accompagner, celui-là peut-être oppose au monde un regard qui ressemble d'assez près, malgré tout, à ce que vous-même dites de la sérénité des Grecs.
Mais je crois qu'en vérité, ces deux attitudes ne sont pas deux systèmes philosophiques ou deux visions du monde, ce sont deux attitudes que nous avons tour à tour dans l'existence les uns et les autres, et nous ne pouvons pas nous en empêcher. Autrement dit, nous aimons par-dessus tout ces moments de réconciliation avec le monde, moi j'appelle ça des moments de grâce, où nous sommes en harmonie avec l'harmonie. Je prends toujours un exemple pour l'expliquer à ma grande fille Gabrielle. Quand elle était petite, je lui disais, voilà, quand on va plonger à Porquerolles, qu'on mêle le masque et les palmes pour aller voir ces ravissants poissons au fond de l'eau, on plonge pas dans l'eau pour transformer. Et bien sûr, on est stoïcien, on est nietzschéen, on est spinoziste, on est dans la mythologie grecque, et on est comme Ulysse à Ithaque, on est réconcilié avec le monde et on est à sa place dans le monde et on aime le monde et on plonge pour aimer le monde. On plonge pas pour le transformer. Quand en revanche on est ministre de l'éducation et qu'on veut que les enfants apprennent à lire et qu'on veut faire passer une loi pour y arriver, on est dans le combat contre le monde. On n'est pas dans la sérénité, on n'est pas dans le bonheur, on n'est pas dans l'amour fatigué. On est dans le combat, dans la lutte, on est dans le laborieux, on est dans le travail, au pire sens du terme. Et donc ça peut être passionnant d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais ce sont deux attitudes philosophiques, c'est pas deux systèmes philosophiques. La grande erreur, c'est d'imaginer qu'il y a d'un côté, je ne sais pas, un Spinoza qui nous inviterait, ou un Nietzsche à l'amor fati, puis de l'autre, un vilain Fichte et un vilain Kant, ou un Marx qui nous inviterait, ou une Antigone à la révolte contre le monde, comme si on devait choisir entre les deux. Et évidemment, ça décrit des attitudes humaines, pas des systèmes philosophiques.
Et la philosophie, ce qui fait de la philosophie une question de tempérament, à quoi on peut être tout à fait
bien sûr.
D'accord.
Bien
dans
sûr.
La mesure où
il y a des palais différents, on a des manières, des stratégies différentes face à la peur aussi, face à la finitude humaine. Et ce qui rassure l'un ne rassure pas forcément l'autre. On peut comme les bouddhistes ou les stoïciens par exemple se rassurer en anticipant la catastrophe et en s'en disant quand la catastrophe aura eu lieu, alors je m'y serai préparé. C'est ça le message des stoïciens ou des bouddhistes par exemple. Enfin, c'est un de leurs messages. on peut aussi ne pas y penser, ou on peut aussi affronter par la volonté les difficultés, se dire il faut changer le monde. Tout cela, ce sont des attitudes possibles. Je ne crois pas qu'on puisse construire un système entier, un système philosophique entier sur une de ces attitudes, comme ce serait, Hegel avait très bien compris ça, il appelait ça l'univocité des systèmes philosophiques. C'est un système construit sur un seul principe est un système qui devient toujours absurde à un moment ou à un autre.
Dans la mesure où il repose sur l'exclusion des autres. Je vous avais promis Luc Ferry au début de cette émission qu'on réentendrait.
Oui.
Sinon ça serait si la vérité était là.
Oui.
Je vous ai promis Luc Ferry au début de cette émission qu'on réentendrait la voix de Jean-Pierre Vernant. On va l'entendre cette fois-ci revenir quasiment en amont même du récit qu'il a fait, puisque ça n'est plus de d'Ouranos qu'il parle, mais de son papa, c'est-à-dire Hésiode.
Hésiode, c'est une sorte de poète inspiré, et on peut l'appeler en quelque façon un théologien au sens que nous donnerions aujourd'hui à ce terme. Car son propos à lui, dans la théogonie, c'est précisément de chanter la puissance du roi des dieux, de Zeus. Et cette espèce d'exaltation de la grandeur de celui qui est le souverain du monde, le roi des dieux et des hommes, ce projet est en même temps une façon d'exposer pourquoi et comment le monde en est arrivé dans l'état où nous le voyons, et pourquoi et comment les hommes occupent avec ce qui définit leurs conditions d'existence, le fait qu'il n'y a pas seulement des hommes mais aussi des femmes, le fait que les hommes ne sont pas exactement comme les bêtes, mais qu'en étant différents des bêtes, ils sont en même temps complètement différents des dieux, qu'ils se situent entre les bêtes et les dieux, que les hommes sont mortels, qu'il leur faut manger comme les bêtes, mourir comme elles, mais qu'en même temps, ils obéissent à des règles que les bêtes ne connaissent pas, dans la nourriture, dans l'union sexuelle, dans leur rapport avec les puissances surnaturelles. Ce poème théogonique est donc en même temps un chant à la gloire de Zeus et une explication du monde, de la place des hommes et des raisons pour lesquelles les hommes doivent se comporter d'une certaine façon.
D'Ariana dans les nouveaux chemins de la connaissance, quelques mesures de Monteverdi, Ariane, délaissée par Thésée. Elle en est à pleurer, elle n'a pas encore rencontré Dionysos. Et Luc Ferry qui est avec nous aujourd'hui pour parler de la mythologie grecque, il nous reste quelques minutes encore pour le faire. On a entendu juste avant la voix de Jean-Pierre Vernant, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir, Luc Ferry, dans ce que dit Vernant. La première, c'est cette différence qu'il fait entre l'homme et la bête, hein, entre l'homme et l'animal, l'institution de la règle. Et deuxièmement, ce qu'il dit d'Hésiode, dont il fait un poète et également un théologien.
Bien sûr, et peut-être le deuxième point qui est plus intéressant, plus important à mes yeux en tout cas.
Le premier n'est pas anodin non plus, hein, la différence entre l'homme et la bête quand
oui,
même.
Oui, mais je la placerai pas là où la place Vernant, c'est-à-dire que je la placerai plutôt dans le fait que la bête va mourir comme l'homme, mais elle ne le sait pas.
C'est
la différence entre mortel et immortel, c'est pas Rousseau, c'est la mythologie grecque, la différence entre mortel et immortel, elle est cardinale dans la mythologie grecque, et au fond, les mortels, c'est les humains, c'est pas les animaux. Bien sûr, ils vont mourir, mais comme ils ne le savent pas, ils n'ont pas cette interrogation sur le sens de la vie bonne pour les mortels que les humains vont avoir et qui seront les seuls à avoir. C'est ça la vraie différence. Alors évidemment, Vernant a raison, ils ont des règles, ils fabriquent du pain, donc Vernant, il y a d'ailleurs beaucoup insisté sur cette question du pain. Ulysse, quand il découvre les cyclopes pour la première fois, se pose la question, est-ce que ce sont des mangeurs de pain? Ça veut dire, est-ce que ce sont des humains? Est-ce qu'ils honorent les dieux? C'est ça, les humains. Mais la question de la finitude est évidemment métaphysiquement première et plus profonde encore. Sur la la question de des rapports entre mythologie et philosophie, ça c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. Bon, on a l'habitude, ça va de soi, et c'est juste, hein, d'opposer mythe et raison. Bon, ça va de soi, on oppose le mythe à la raison, et donc la mythologie à la philosophie, parce que le mythe, il est poétique, il est littéraire, il repose sur des images, et puis il est théologique. En effet, Hésiode est un théologien. Et comment défendre l'idée que je défends, mais avec laquelle Vernon eût été certainement d'accord, on la trouve d'ailleurs chez lui à bien des égards, que la philosophie est directement l'héritière de la mythologie. Ce qui va se passer, et je crois que ça vaut pour toutes les grandes périodes de la philosophie elle va être simplement sécularisation d'une religion qui la précède. Au fond, ce qu'elle fait, c'est séculariser ou laïciser un message qui, chez Hésiode, en effet, est encore un message prisonnier d'une théologie, et la philosophie va le formuler en termes rationnels. Prenons un exemple pour être simple et pas rester dans l'abstraction. Dans la théogonie d'Hésiode, eh bien, on parle de Gaïa ou de la Terre indifféremment. Mais Gaïa, c'est à la fois le prénom, la déesse, la divinité, puis c'est en même temps l'élément naturel physique de la Terre. Ou on parle d'Ouranos ou de Poséidon ou de Pontos comme de la même manière, comme étant à la fois des morceaux du cosmos, des morceaux de nature et des divinités. Tartare, à la fois, c'est le sous-sol et une divinité qui peut, par exemple, fabriquer des enfants avec Gaïa. Ils feront ensemble un enfant terrible qui est Typhon, par exemple. Bon. Et donc, ces morceaux de nature sont présentés comme des entités divines. Et c'est ça, évidemment, que la philosophie va critiquer. C'est de cela qu'elle va se débarrasser. Elle va reformuler le message de la théogonie d'Hésiode et plus généralement de toute la mythologie en le débarrassant, si je puis dire, de ses oripeaux religieux. C'est ça qu'elle va faire. Pourquoi elle va le faire? Très probablement parce que la philosophie va opérer cette transformation dans un cadre qui est celui de la démocratie athénienne, de la démocratie grecque, c'est-à-dire un cadre argumentatif, un cadre qui pousse à la rationalisation des choses. Et c'est comme ça que, par exemple, Cronos, le titan, celui dont on disait tout à l'heure qu'il coupe le sexe de son père, d'ailleurs de la main gauche, la sinistre, eh bien, il va devenir Cronos avec un H, le temps, qui dévore ses enfants. Cronos dévore en effet ses enfants, mais là, quand on va laïciser les choses, ce sera plus une divinité qui mange ses enfants, ce sera le temps qui dévore les années, les mois, les jours, les heures, les minutes, les secondes, etc. Et ça deviendra métaphorique. Vous avez là la version séculariser ou laïciser du Chronos, entité divine qui avale ses enfants et qui devient le temps. Il suffit de rajouter un petit H pour que la laïcisation se fasse. Et le message des stoïciens, vous savez que les stoïciens étaient passionnés, leur figure tutélaire c'était Hercule, Héraclès. Hein, il rendait un hommage à Héraclès. Eh bien, on voit qu'il y aura des points de passage entre philosophie et mythologie qui sont très grands, même si évidemment la philosophie rationaliste, comme toujours, va se débarrasser des oripeaux du mythe.
Mais la philosophie n'est pas fatalement racionaliste et elle peut faire des mythes une autre utilisation. On pourrait par exemple se servir.
Il vaut mieux qu'elle le soit quand même.
Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas nécessairement. On peut sans être un mythologue, on peut aussi considérer qu'on n'a pas toujours raison d'avoir raison, si vous voulez. Qu'en philosophie, il y a aussi des registres où l'intuition sensible, par exemple, pas au sens kantien, mais au sens de Bergson, au sens de la finesse, de l'instinct. Il y a d'autres éléments. L'étonnement, par exemple, un étonnement qui ne serait pas résolu dans sa théorie, mais qui serait maintenu. La position de l'enfant.
Non.
Tout ça sont des positions philosophiques.
Non.
Par exemple.
Non, non.
Un exemple. On arrive au terme de cette émission, juste
Raphaël,
un exemple.
Non, je crois pas.
Mais un exemple.
La philosophie parle de choses non rationnelles, mais elle-même, elle est quand même tentée par ce rationalisme.
Mais que ce soit sa tentation, oui. C'est certain. Mais en revanche, on peut être dans la philosophie sans être dans la raison. Prenons juste un exemple.
Ça me paraît délicat.
Mais alors, prenons juste un exemple. Le mythe d'Orphée. Orphée se retourne. On en a parlé plusieurs fois cette semaine. Mmh. On a beaucoup parlé des trompe-la-mort cette semaine.
Ah
c'est essentiel.
C'est grandiose, oui.
Parmi ces trompe-la-mort, il y a donc Orphée.
Il y a Sisyphe, il y a Orphée.
Sisyphe, Orphée, il y a Ulysse d'une certaine manière, d'ailleurs.
Oui.
Orphée donc.
La Nequia,
ouais. Orphée, c'est celui qui se retourne. C'est celui qui se retourne et qui perd l'objet qu'il désire, c'est-à-dire la femme qu'il va chercher aux enfers. C'est celui qui, se retournant, perd celle qu'il aimait. On peut faire de cela une parabole sur la critique de ceux qui, au contraire, voudraient se souvenir, la critique de ceux qui voudraient incorporer le passé à l'existence. Bref, la critique de ceux qui négligent le présent au profit des bilans, de ce que Bergson appellerait, par exemple, l'illusion rétrospective. Une telle analyse, une telle interprétation des mythes est également possible, elle n'est pas moins philosophique.
Non, tout est possible, mais je crois que le mythe d'Orphée, quand Orphée se retourne. Il faut bien voir comment la scène, il faut les maîtres des enfers, Hadès et Perséphone, donc Hadès, la divinité infernale par excellence, et Perséphone, sa femme, ils sont très touchés par Orphée, parce que Orphée a perdu son Eurydice. Eurydice est morte en mettant le pied sur une vipère, et donc ils sont très touchés aussi par la musique d'Orphée, qui est sublimissime. Il a rajouté 2 cordes à la lyre, il a une lyre à 9 cordes, et il fait pleurer, dit-on, même les rochers, même les pierres pleurent en l'écoutant. Et donc on a là quelque chose qui est, je crois, a une signification tout à fait différente. Ils disent à Orphée, faut pas que tu te retournes. Si tu te retournes, tu perdras une deuxième fois Eurydice. Et pourquoi il se retourne quand même? C'est parce que ça symbolise l'irréversibilité du temps. Le passé est passé et il faut qu'il le comprenne. Autrement dit, ce qui est fini est fini, ce qui est mort est mort. Et c'est à nouveau, comme dans l'histoire d'Ulysse, une compréhension du caractère intrinsèquement mortel et irréversiblement mortel de la condition humaine.
Ce n'est pas la musique d'Orphée que nous entendons, c'est Richard Strauss.
Mais c'est très beau quand même.
C'est Ariane Anaxos, absolument. C'est très beau quand même. Merci Luc Ferry, avec
merci
vous
à vous,
cette semaine sur la mythologie grecque. Je rappelle le titre de votre livre, La sagesse des mythes, Apprendre à vivre, tome 2, un livre en partenariat avec France Culture. Je veux citer aussi le livre de Jean-Pierre Vernant, l'un des livres de Jean-Pierre Vernant, disons, L'univers, les dieux, les hommes.
Oui, c'est
on le trouve en point seul, c'est formidable.
C'est
absolument.
Un livre génial.
Je signale également parmi nos invités de cette semaine, de Lucien Gerfagnon au Bonheur des sages, Les dieux ne sont jamais loin, de Pierre Brunel, Sisyphe et son rocher, de Bernard Sergent, Le mythe de l'Atlantide, et de Vincent Delcroix, Le tombeau d'Achille, toutes ces références et bien d'autres sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Les Nouveaux Chemins vous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Lévi-Strauss à l'occasion de son 100e anniversaire. Fallait-il rendre cet hommage enthume à Lévi-Strauss? La question est posée. Quoi qu'il en soit, lundi nous recevrons Catherine Clément, puis Françoise Héritier, puis Vincent Debanne, puis Martin Rueff, puis Victor Stokowski pour évoquer des textes cardinaux, Triste Tropique, Le cruel cuit, Les structures élémentaires de la parenté, ou encore Race et Histoire. Je profite également, c'est vous Luc Ferry qui m'avez demandé de le faire au début de l'émission, je le fais volontiers pour dire que dimanche à 11h devant la mairie de Neuilly, il y a un rassemblement, une marche blanche pour Gilad Shalit, le soldat israélien, franco-israélien, qui est toujours retenu par le Hamas. À la technique aujourd'hui, c'était Bruno Gagnère, à la réalisation François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Éléonore Clovis et Gabriel Alperne. France Culture, il est 17h50, vous avez rendez-vous tout de suite avec Albert Jacquard.
Nous avons vu que la limitation dans l'espace de notre planète impose de toute évidence de mettre en place une structure de l'humanité dont les rapports avec le monde concret qui l'entoure puissent durablement rester stables. Cette stabilité n'implique nullement une stagnation. Le développement de multiples activités est parfaitement possible, mais à condition qu'elle ne se heurte pas aux contraintes naturelles. Il est donc nécessaire de commencer par bien définir l'objet de la croissance, de préciser sa mesure, de faire l'inventaire des limites, enfin d'imaginer des comportements qui pourront se développer dans des domaines où ces limites ne se manifestent pas. Posons-nous la question, qu'est-ce donc qui croît? Et comment mesure-t-on cette croissance? Une discipline scientifique récente, l'économétrie, s'est développée pour répondre à cette question. L'Institut de la statistique est chargé d'apporter toutes les données qui permettront de faire les calculs nécessaires. La réalité que l'on s'efforce de décrire a de multiples facettes. Elles sont étudiées avec compétence par des équipes de spécialistes, mais le public ne peut pas tenir compte de toutes les nuances que nécessite l'interprétation des données. La réponse est nécessairement de même nature que celle que donnait le psychologue Binet, l'inventeur des fameux tests mesurant l'intelligence. Il avait répondu « L'intelligence, c'est ce que mesurent mes tests. » Eh bien, de même, l'économiste interrogé sur la signification de ces statistiques sur la croissance peut répondre « La croissance, c'est ce que mesurent mes indices. » Autrement dit, ce qui croit n'est même pas défini. Il est donc abusif d'évoquer une mesure de la croissance. Tout au plus peut-on présenter ces indices comme des indicateurs plus qualitatifs que quantitatifs.
La façon même dont ils sont utilisés par les gouvernants montre combien ceux-ci ne croient guère à la signification de ces nombres. Toute mesure sérieuse, ayant véritablement un sens, par exemple la mesure d'une longueur ou celle d'un poids, doit être accompagnée d'une évaluation de sa précision, en indiquant non pas seulement un nombre, mais une plage à l'intérieur de laquelle se trouve le résultat cherché. Si cette règle était respectée, bien des querelles seraient évitées. Il n'y aurait plus divergence entre celui qui annonce une croissance de 2,1% et celui qui prétend 2,6%. Au fond, tous les deux se retrouvent dans la plage entre 2 et 3. Une vraie mesure ne comporte pas seulement un nombre, mais plusieurs. Voilà une discipline intellectuelle qu'il faudrait appliquer à toutes les mesures économiques.
À retrouver sur Radio France.
Demain sur France Info à 9h57 et 15h20.
Musique Weekend.
Anne Chépeau rejoindra Jean-Lémarie pour nous donner des idées de sorties musicales en concert ou dans les festivals et nous signaler les nouveaux disques à ne pas manquer.
En savoir plus,
france-info.com.
Demain sur France Bleu à 14h,
on repeint la musique.
Serge Pozzevara et son équipe de chroniqueurs recevront Boris Bergman, auteur pour Bachung, Dalida et bien d'autres, pour son spectacle musical Yalta 1916.
Et le chanteur Abdelmalik pour Dante, son nouvel album.
En savoir plus, francebleu.com.
Et demain, sur France Culture, à 15h...
Zone de libre-échange.
Xavier Delaporte, Louise Touret, Joseph Confavreux et Mathieu Garrigou-Lagrange seront en direct du Point Éphémère à Paris.
Avec le colonel Jacques Hébrard, directeur de recherche de l'Institut de Recherche Criminelle.
Et Jacques Gential, créateur de la police scientifique moderne.
Autour du thème technique d'enquête.
Plus d'infos, franceculture.com.
Radio France.
Radio France.
On ne se quitte plus.